Bonjour et bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Blas au micro et Nicolas Svatman à la technique. Encore une journée froide, voilà, qu'est-ce que vous voulez, on n'y peut rien, on est en plein hiver comme ça. En première partie d'émission, j'ai quelques sujets, d'abord commençant par... Je vais commencer par la nouvelle triste, le décès du jeune auteur, compositeur, interprète, chanteur, musicien, artiste, multitalentueux. Voilà, Karim Ouellet qui vient de nous quitter. Quitter, on ne sait même pas de quoi il est mort. On ne sait pas. D'autres disent dans son studio, d'autres disent chez lui à la maison, on l'a retrouvé. On attend le travail du coroner et puis on en saura plus. Et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir le docteur Eric Simard. Voilà, qui va nous parler de la conférence, la prévention de la démence et de l'Alzheimer. Ça va se passer le 22 janvier de 10h. À 11h, bon, je sais pas, la vieillesse, il a réédité son livre « Vive jeune, plus longtemps ». Voilà, les détails, si vous voulez le savoir, c'est à partir de 17h30. Ouais, il sera avec nous. Voilà, on parlait un peu de cette histoire d'Alzheimer qui fait beaucoup de dégâts sur la planète, dans le monde. On va tout de suite en musique avec une pièce de Karim Ouellet, « Si fragile ». C'est une reprise, bien sûr, d'une pièce de... Voilà, Luc de la Rochelière, on y va. Voilà, acoustique, c'est fragile, Karim Ouellet.
On ne choisit pas toujours la route. Même le moment du départ, on n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile, on ne choisit jamais de vieillir. Je voudrais rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir. On meurt souvent, bien entendu. Car la vie est si fragile. Est si fragile. Est si fragile, est si fragile. On est seulement ce que l'on peut, on est rarement ce que l'on croit. Ah. Et sitôt on se pense un dieu, sitôt on reçoit une croix. Ah. Car la vie est si fragile, est si fragile, est si fragile, est si fragile. Car le temps est là, toujours là. Seule justice ici-bas, on est si fragile.
On marche sur l'or ou sur l'argile.
Dépend de ce qu'on a reçu,
mais on reste tout aussi fragile.
Pourquoi donc se marcher dessus? Car la vie, car la vie. Est si fragile, est si fragile.
Car la vie
est si fragile. Et si fragile.
Fragile. Très belle reprise d'ailleurs de cette pièce, si fragile. Que la terre lui soit légère. Oui, mes pensées, mes condoléances à sa famille et à ses proches. Il y a sa sœur, Sarah May, pour ceux qui ne savent pas, c'est sa sœur qui est Sarah May, la rappeuse de Québec, bien sûr, qui a posté un texte, un message sur Instagram. C'est avec une profonde tristesse que nous, la famille, vous annonçons le décès de notre cher Karim, un fils, un frère, un ami et un musicien exceptionnel. Karim aurait laissé sa marque dans nos cœurs pour toujours et nous continuerons de célébrer sa vie, son talent et son héritage. Nous demandons aux médias et aux journalistes de respecter l'intimité de la famille et de Karim dans ces moments difficiles. Et merci pour ce torrent d'amour pour Karim, à ceux qui ont été touchés par ses mots et ses mélodies. Continuons de faire résonner sa musique. Ses chansons poursuivront. Ça, c'est Bruno Marchand, c'est le nouveau maire de Québec, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est lui qui dit ça. Ses chansons poursuivront leur chemin de notre cœur à nos oreilles pour de nombreuses années, encore emportant avec elles toute la passion d'un homme de chez nous. Qui aura marqué notre culture. À toi, cher Karim, passionné, je te souhaite un bon voyage. C'est Bruno Marchand, le nouveau maire de Québec, après avoir appris la triste nouvelle, bien évidemment. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un auteur, compositeur, interprète. Né à Dakar, au Sénégal, il a été adopté par une famille québécoise de Québec. C'est ce qui fait que c'est sa ville natale, ça, disons, pas natale, sa ville d'adoption. Voilà, c'est dans le quartier Limoilou. Voilà, né à Dakar, Karim, 37 ans maintenant, tout jeune. Son premier album en solo en 2011. Plume, son deuxième opus Fox, paru en 2012. En 2016, il a fait paraître 30. Sacré meilleur album francophone au prix Juno en 2014. L'album a aussi récolté bon nombre de nominations au Gala de la Disque en 2013. En plus de faire chanter le Québec avec son succès, L'Amour, c'est la deuxième pièce qu'on va écouter d'ailleurs, de Karim Ouellet. Et qu'est-ce que dit le coroner? Voilà. Nous ne pouvons donner pas plus de détails à ce stade, confirme le bureau du coroner. Il a confirmé ce matin et un rapport d'investigation sera rendu public lorsque l'enquête sera complétée. Personne ne sait. Personne ne sait. Malheureusement, l'intervention des services d'urgence a eu lieu à... Confirmé a eu lieu d'ailleurs. Qui est Alexandre Bébé Boisvert, responsable du développement des affaires chez Immeuble Tandem, propriétaire des studios du quartier Saint-Roch. C'est là que ça s'est passé. Il y a d'autres qui disent chez lui et d'autres qui sont dans les studios. C'est une triste nouvelle et nous sommes de tout cœur avec la famille et les proches. Nous attendons tout le monde de savoir, d'en savoir davantage, s'il y a lieu, suite au travail des autorités. Ouais. C'est très touchant, c'est très... J'ai la chance de le croiser comme ça quelquefois. Je l'ai jamais eu en entrevue, de le croiser comme ça quelquefois à des spectacles. Bon garçon qui s'exprime bien, un peu timide sur les bords, mais voilà. Sur scène, il n'est pas timide, hein, il faut le dire. Comme tout artiste, ils sont timides dans la vie privée, mais on ne sait pas ce qu'il a traversé ces derniers temps, ces dernières années. Et on est tous des humains, on est tous humains, on a beau être fort, la fragilité, comme dirait l'autre, la vie ne tient qu'à un fil. Ouais. Lequel ? C'est le fil qui est très fin. Voilà. Ce qui fait que de temps en temps, je dis, prenez soin de vos minutes à la fin de l'émission. Nous sommes toujours en pandémie, tendez la main aux proches, aux voisins, aux collègues, ceux qui en ont besoin, bien sûr. Et puis, mais ne vous oubliez pas vous-même. Ouais. Je parlais de cette histoire de suicide ici. Si vous avez des problèmes, vous avez des idées comme ça, je ne dis pas qu'il s'est suicidé, c'est parce que je suis en train de dire, attention, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas, il y a des services qui sont là pour ça, contactez-les. Ne restez pas dans votre coin en train de, voilà, de tomber encore, d'aller encore au plus profond du puits. Là, on ne pourra plus vous tendre la main pour vous relever. Il y a des services ici au Québec. Voilà. Adressez-vous à ces services-là pour demander de l'aide. Voilà. On est tous des humains, on a tous une fragilité en nous. Qu'est-ce que c'est que être fort? Ah, moi, je tiens le coup, je suis fort, tout va bien. Toujours en train de se mentir et de mentir aux autres. Oui. C'est quoi cette histoire? Voilà. On va écouter sa deuxième pièce, l'amour.
D'avance, alors tu gardes ce que tu penses pour toi. Pile ou face, ce sans importance, laisse décider la chance, cesse de demander pourquoi. Alors on peut dessiner des mots d'amour du bout des lèvres, on peut siffler comme un oiseau quand le soleil se lève, on peut laisser ses mots crever dans sa bouche et pleurer comme un bébé quand le soleil se couche. Choisir un camp. Ah non, allons voir s'il nous est permis de garder l'espoir. On peut dire à celle qu'on aime et qu'elle est belle. Recommencer tous les matins quand le soleil se lève. On peut viser tous les cœurs et ne jamais faire mouche et rentrer seul quand le soleil se couche.
Karim Ouellet, l'amour. Que la terre te soit légère. Mes pensées, mes condoléances, mes pensées, mes sympathies à ta famille, à tes proches, à tous ceux qui t'aiment. Bon vent. Alors, c'est triste. Si vous voulez. Voilà, je vais passer quelques autres sujets. Le musée Macor fête ses 100 ans. Le musée est gratuit durant 100 jours. Voilà. Ça, c'est, on ne veut que ça, quoi, la gratuité. Pour les 100 ans, le musée donne 100 jours de gratuité. Allez-y comprendre quelque chose. Pour célébrer les 100 ans du musée Macor, la visite du musée est gratuite pour 100 jours. Hein. Voilà. Mais inscrivez-vous en ligne, vous savez, on est en pleine pandémie, n'hésitez pas. C'est depuis le 13 octobre 2021 jusqu'au 19 janvier 2022. Cette gratuité finit demain. Aujourd'hui, c'est le 18, demain, c'est le 19. Demain, mercredi, à 18h, c'est gratuit. Musée Macor, qui est situé au 690-690 rue Sherbrooke Ouest, à Montréal, bien sûr. Allez-y sur le site musée-macor.qc.ca/fr billetterie. Voilà, allez-y là-bas et puis bon, ben, allez-y faire votre réservation. Pour ceux qui n'ont pas encore pu profiter de ces 100 jours, on en a parlé ici il y a très longtemps. Comme demain, c'est la dernière journée, si je ne me trompe pas, de la gratuité. Voilà, je reviens là-dessus pour vous dire, allez-y, profitez-en. Voilà, c'est pas donné les musées. Hein. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Alors, il y a des gens qui l'ont su, qui en ont profité. Hein. Il y a des gens même, peut-être qu'ils ont fait les 100 jours gratuits. Je peux m'imaginer. Il y a tellement de belles choses à voir là-bas au musée Macor. Voilà, 100 ans. Une décennie. Allez-y, comprendre quelque chose. Oui, oui. Ouais, et puis, il y a le... Je vais parler d'un autre musée, le musée des Beaux-Arts de Montréal, qui est heureux d'annoncer d'ailleurs le retour à l'horaire de ce mercredi soir, à compter de demain, du 9 janvier. Donc maintenant, il sera possible de visiter entre 17h et 21h les expositions L'univers de Youssouf Karch, l'essence du sujet jusqu'au 30 janvier, et combien de temps faut-il pour qu'une voix atteigne l'autre jusqu'au 13 février, et hors cadre, œuvre des artistes parmi nous jusqu'au 13 février, au tarif de 12$. Ouais, ça va, on peut se permettre. Oui, oui. Allez-y sur le site Museo de Beaux-Arts pour retrouver le toutes ces expos, mais tous ces horaires là-bas. Et puis voilà. Et puis il y a quoi? Qu'est-ce qui est ouvert encore? Autre bonne nouvelle, c'est la boutique librairie qui rouvre ses portes les dimanches de 10h à 17h. Et puis les mercredis aussi, les visiteurs, les mercredis jusqu'à 21h. C'est pas mal, hein? De toute façon, c'est les seuls lieux qui sont ouverts actuellement. De toutes les façons, il n'y a plus de spectacles, machin et autres. Voilà, donc, elle vient de préparer la sortie au musée, là. Il nous invite à aller consulter le guide de visiteurs sur le site, là-bas. Allez-y, c'est mbamtl.org. Vous pouvez taper sur Google, Musée des Beaux-Arts, vous allez voir là-bas. Et bon, cliquez sur le site, sur le lien qui est là, et puis bon, ben... rapidement. Vous pouvez les appeler aussi au 514-285-2000. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et je ne peux pas choisir des sujets comme ça pour moi sans parler de tennis. Puisque ça continue le premier tour. Il y a d'autres qui ont gagné aujourd'hui. Il y a Nick Kyrgios qui rejoint Daniil Medvedev au deuxième tour de l'Open Australien. Oh, il ne pouvait pas choisir mieux que ça comme au deuxième tour. Hein, alors là, vraiment. Alors Nick, qui n'avait plus gagné un match depuis Atlanta en juillet 2021, a réussi son entrée à l'Open Australien en dominant sans difficulté Liam Brody. 6-4, 6-4, 6-3. J'aime bien ce genre de score-là. Son duel au deuxième tour face à Daniil Medvedev. Ouh, ça va être suivi là. C'est un vrai duel ça. Et puis il y a notre Félix Auger-Aliassime, FAA, comme on le surnomme dans le milieu de tennis là-bas maintenant. FAA, il n'a pas raté son deuxième tour, hein, son premier match qu'il a gagné là, il va en deuxième tour lui aussi. Mais l'enfant là, je ne sais pas, je l'appelle l'enfant parce qu'il est encore jeune. Voilà. Voilà. Ce jeune homme là, quelquefois, quand on le voit jouer, au début, quand il se laisse mener 2-2, 2-7 de machin et tu te dis, oh, ce garçon, il ne peut plus jamais revenir. Ah non, il a non. Oh, voilà. Ah, il a remonté la pente. Il a, Il s'est mis au charbon, comme on dit. Il s'est mis au charbon, là. Il fallait le faire, hein. Parce que si tu n'as pas ce mental, tu ne peux pas remonter 2-7 déjà perdu. Ça, c'est vrai. Voilà, il était mené 2-7 par Émile Rousseau-Viori. Donc, il est revenu à son avantage à lui. 6-4, 0-6, 3-6, 6-3, 6-4. Là, il a son billet pour le deuxième tour. Et puis, il y a la jeune canadienne aussi, Emma Radou. Non, la jeune anglaise. Oui, c'est pas une canadienne, c'est une anglaise. Les Emma Raducanu qui a dominé d'ailleurs Sloane Stephens au premier tour de l'Open Australie. Et 4 mois après son sacre à l'US Open, parce que c'est elle qui a gagné là-bas, la jeune anglaise, là, du 9 ans, si je ne me trompe pas. Ouais, du 9 ans. Elle a bien réussi son entrée à l'Open d'Australie, quoi. Donc là, elle a dominé Sloane Stephens. Aujourd'hui, 6-0, 2-6, 6-1. Voilà. C'était un match très, très, très décousu. Hein. C'était pas, j'ai vu le résumé du match. Là, j'ai dit, il faut voir un peu, là, j'aime bien ça, pour pouvoir bien en parler. Et c'était un peu décousu, mais. La petite pétuite anglaise de 19 ans s'est imposée face à Sloane Stephens 6-0, 2-6, 6-1 aujourd'hui. Et puis il y a l'un des cardis, si on peut les appeler, l'un des caïds du tennis aussi, André Marie, qui est toujours là. Il s'en sort bien en 5-7 contre Nicolas Basislashvili au premier tour de l'Open d'Australie. Là, tout ça, ils se qualifient tous là, ils s'en vont au deuxième tour. Et je me dis, après un combat de 5-7, ça, il faut le faire, c'est un vrai marathon ça. 5-7. Oui, ça c'est vraiment, c'est 5-7 dont il a le secret, ça il faut le dire, il faut avoir le coude, le poignet vraiment en forme pour pouvoir tenir à 5-7. Et puis la force même d'aller d'un côté à l'autre du court de tennis. Il a fait quand même tête de série numéro 21 contre le tête de série numéro 21 de l'Open d'Australie. Bon ben, 5 ans, Andy Murray n'avait plus gagné un match à l'Open d'Australie. Le quintuple finaliste, le Britannique, a été ballotté par les blessures. Ouais, il était toujours blessé, lui. À chaque fois que je lisais quelque chose sur lui, il était... C'est comme Federer qui est tout le temps blessé maintenant. Genou par-ci, par-là, c'est le bas du dos, ou bien c'est le poignet, ou bien tu te dis, mais est-ce qu'il va revenir? J'espère que Federer pourra revenir comme Andy Murray est en train de le faire actuellement pour dire aux gens, oui, j'étais tout le temps blessé, mais je peux me laisser traiter, avoir le moral et revenir. Là, il pense en deuxième tour lui aussi. Je dis bravo à tous ceux-là. Ah oui, et puis du côté de la Coupe d'Afrique des Nations, 2022 Afrique, dans le groupe A, il y a le Cameroun qui est en tête avec 7 points, le Burkina Faso 4 points, deuxième, Cap Vert, mon Dieu, devant l'Éthiopie, 4-1, et puis groupe B, le Sénégal en tête avec 5 points, et la Guinée 4 points, le Malawi 4 points, le Zimbabwe 3 points, et le groupe C rapidement, Maroc 6 points en tête, le Gabon 4 points, le Ghana 1 point, Comores 0. Ouais, les îles Comores, faut pas attendre grand-chose d'eux non plus. Hein. C'est une équipe, c'est les premières participations. Demain, je vous donnerai d'autres résultats sur le tennis et le football aussi, le soccer. Voilà. On va passer la dernière pièce de la première partie de l'émission avant d'aller recevoir en deuxième partie notre invité, le docteur, parce que le mois de janvier, c'est le mois de l'Alzheimer. C'est la raison pour laquelle on l'a invité. Il va nous parler de ça. Alors, un peu de chaleur avec Jimmy Cliff de Harder They Come.
forgive them, Lord. They know not what they've done. 'Cause as sure as the sun will shine, I'm gonna get my share now. What's mine? And then the harder they come, the harder they fall. What I love. Ooh, the harder they come, harder they fall. What I love. Oh yeah. Hello, yeah, yeah. Oh yeah. I'll keep on fighting for the things I want. Though I know that when you're dead you can't. But I'd rather be a free man.
C'était Jimmy Cliff, The Harder They Come. Voilà. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, on va avoir aussi une pièce musicale avant de recevoir le docteur Eric Sima qui vient nous parler du mois de l'Alzheimer. C'est le mois de janvier. Voilà. Et puis de la conférence qui aura bientôt lieu le 14, c'est-à-dire le 24, c'est-à-dire dans 4 jours. Aujourd'hui, le 22. Aujourd'hui, c'est le 18, dans 4 jours. Le 22, voilà. Restez à l'écoute. Juste après la petite pause publicitaire, une pièce musicale. Et puis l'invité sera avec nous. Allez, à tout de suite.
Vous écoutez Escale 1718 avec Fulgence Blas.
Potion Jabber Records.
Trouble. Lily Java.
Mundangari none muhana, moyo ne mufungwa, kumbanda kusuwa.
Ya ya.
Varisiska inapolina, rasi ya okara, dino imba ikukura. Upeza nino karorota, zole zuwa, ndoroka mayu wachichema, wachishima misozi.
Jesus.
avec la complicité de Revani et l'étude de la pièce Kidzoga. Voilà, notre invité déjà au bout du fil, Dr Eric Simard, qui va nous parler du mois de la sensibilisation à l'Alzheimer. Et si on parlait de renverser l'Alzheimer, alors, est-ce qui est mieux placé que lui? Non, personne d'autre. Voilà, parce qu'il y aura aussi une conférence virtuelle gratuite offerte dans le cadre du Salon des aînés de Laval le 22 janvier, ça dit dans 4 jours, de 10h à 11h. Une conférence prévention de la démence et de l'Alzheimer, cette conférence très populaire, qui fut donnée à plusieurs reprises d'ailleurs. Et puis, qui est ce monsieur, ce docteur que j'ai invité pour qu'on vienne parler de ça? Parce que lui, il a un doctorat en biologie, il est à l'origine de découvertes importantes pour ralentir le processus du vieillissement primaire. Il va nous expliquer ce que c'est que le vieillissement primaire. Il a été président du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, CRSNG, pendant plus de 10 ans. Et il est membre de la commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Il est aussi président d'IDOM Technologie et président de l'association professionnelle pour la santé intégrative, regroupant plus de 15 professions, dont les médecins, les pharmaciens, les nutritionnistes et puis les naturopathes. Bonjour, docteur Eric Simard. Comment allez-vous?
Oui, bonjour. Je vais très bien, merci.
Oui, je me suis dit, avec la lourdeur de chapeau que vous portez. Merci d'avoir le temps, malgré votre emploi du temps chargé, de venir nous parler d'abord de cette conférence et puis du mois de la sensibilisation de l'Alzheimer. Qu'est-ce que c'est que le mois de la sensibilisation à l'Alzheimer?
En fait,
Et comment on peut renverser l'Alzheimer?
Oui, c'est une question qui intéresse beaucoup les gens, effectivement. Les conférences que je donne dans le domaine de l'Alzheimer sont le sujet qui intéresse le plus la population. Là.
Oui.
Pour une raison fort simple qu'on connaît très bien, c'est que ça touche énormément de gens dans la population. Puis là, j'aimerais rappeler quelques chiffres pour les gens qui nous écoutent. Là.
Oui.
À partir de 65 ans, on a déjà 10% des gens qui vont être touchés par la maladie d'Alzheimer. À 80 ans, c'est 32%, donc pratiquement une personne sur trois, directement. Sans compter tous les gens qui sont touchés de façon indirecte, en fait, dont les proches aidants.
Les proches aidants, oui, oui, oui.
Donc, c'est une maladie qui va toucher vraiment une très grande partie de la population. Et au Canada, en fait, on estime en 2030, donc tout bientôt, là, qu'on va avoir 912 000 cas environ.
Attendez. 912 000 cas?
Au Canada, en 2030, oui, c'est l'estimé. Actuellement, on sait déjà là, que ça représenterait 10,4 milliards de dollars en coûts annuels. L'Alzheimer, ici au Canada, 10,4 milliards de dollars, c'est énorme. Là.
C'est énorme, c'est énorme.
Outre le côté tragique, en fait, de la maladie. Là.
Oui.
Le mois de janvier, tous les années, je donnais un très grand nombre d'entrevues à la radio, entre autres, dans les médias.
Oui.
Pour sensibiliser les gens à la maladie, mais surtout au fait, en fait, qu'on peut agir en prévention sur la maladie d'Alzheimer. Et les scientifiques, on ne s'entend pas sur un nombre exact là, au niveau du pourcentage de cas qu'on peut prévenir. Souvent, les gens vont parler de 30 à 40 % des cas. Moi, je vous dirais que c'est au moins 50 % des cas. Tant que moi, je considère que c'est au moins 50 % des cas qu'on pourrait prévenir.
OK.
La maladie d'Alzheimer, c'est énorme. Et dernièrement, pour répondre à votre question, en fait, la raison pour laquelle cette année, on a parlé en plus de renversement de la maladie,
oui.
C'est qu'il y a deux médecins étrangers qui, à la même époque, en fait, pour les mêmes raisons, ont publié des livres sur le sujet.
Oui.
Donc, Dr. Dale Bredesen, qui est un Américain de la Californie, qui est un neurologue, entre autres, qui a travaillé 30 ans en recherche dans le domaine des troubles cognitifs et de la dégénérescence nerveuse, dont la maladie d'Alzheimer.
Oui.
A publié lui-même un livre qui s'appelle « La fin d'Alzheimer, le programme ». Et en même temps, on a un médecin allemand, donc quelqu'un de l'Europe, en fait, qui s'appelle Michael Nels, qui a publié un livre qui s'appelle carrément « Guérir l'Alzheimer ». Il va encore un petit peu plus loin, parce que lui, il est convaincu, en fait, aujourd'hui,
oui.
qu'il y a certains cas, pas tous les cas, mais qu'il y a certains cas qui s'y sont pris relativement tôt, et qu'on change drastiquement les habitudes de vie de ces gens-là,
oui,
pour optimiser tout ce qu'on peut optimiser, que ces gens-là vont finir par mourir d'autre chose au lieu de mourir d'Alzheimer.
Mais comme vous le dites, Dr Simard, mais dans ce cas-là, il faut le détecter très tôt.
Ben oui et non. C'est que c'est une maladie qui va évoluer très, très lentement. Hein, que chez les gens, souvent, on va se rendre compte, on va avoir un diagnostic, ça fait déjà, on estime que ça fait déjà 15 ou 20 ans que la maladie est en développement.
Oui, OK.
Donc, mais malgré ça, on parle de renversement parce qu'il y a des gens qui avaient déjà les premiers symptômes, puis des symptômes quand même sévères, qui sont revenus complètement à la normale. Donc, le protocole du médecin américain apporte en fait un vent de fraîcheur dans l'approche concernant l'Alzheimer. Et lui, ça fait déjà,
oui,
depuis 2014 qu'il met ça en application et qu'il documente des cas. Il a formé déjà plus de 1500 médecins dans 10 pays différents dans le monde à son approche.
Oui.
C'est réellement fort intéressant. Donc, pour avoir un exemple un peu concret, là, un entrepreneur dans la fleur de l'âge, là, je disais, ben, dans la fleur de l'âge, mettons, pour s'entendre, et disons 55-60 ans, lui était affecté par la maladie quand même relativement jeune,
oui,
pour des cas d'Alzheimer. Il a été obligé d'arrêter de travailler parce qu'il n'était plus capable de tenir son agenda, il n'était plus capable de s'occuper de l'entreprise de façon normale, en fait, de subvenir à ses fonctions.
Oui.
Et il a été mis sur les 10 premiers cas qui ont été accompagnés par le protocole. Quand Dr. Bedeson a lancé, en fait, l'idée de son processus, son protocole d'accompagnement, ce monsieur-là, il est revenu complètement à la normale, il a recommencé à travailler. Et les membres de son équipe ont même témoigné du fait qu'il était revenu comme il était avant. En fait, il a retrouvé ses capacités.
Est-ce qu'on peut parler d'espoir?
Et oui, c'est de l'espoir. En fait, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce monsieur-là, il n'est pas guéri pour autant. C'est juste que on est capable de rétablir suffisamment les fonctions cognitives pour lui redonner une vie normale,
oui,
pendant une certaine période de temps, qui peut être plus ou moins longue dépendamment des gens, parce que la maladie va évoluer à une vitesse différente dépendamment des gens, selon beaucoup de facteurs.
Oui.
Dr. Bedeson, ce qu'il a fait de différent, là, pour bien situer, avoir une idée en fait de l'importance de l'approche, c'est que la maladie d'Alzheimer, lui, a décrit six types de patients affectés par la maladie différents,
oui,
dont par exemple, pour vous donner une idée, là, donc une portion en fait des gens qui sont affectés par la maladie d'Alzheimer, que l'origine serait toxicologique. En fait, ça pourrait être dû à une intoxication aux métaux lourds ou à des pesticides ou encore à des moisissures. Je vais vous donner un exemple. Et il a apporté en fait des façons d'aborder ces cas-là de façon différente pour chacun des six types.
Oui.
En considérant tous les facteurs qui rentrent en ligne de compte. La maladie d'Alzheimer, entre autres, c'est une maladie métabolique de gestion énergétique, en fait, au niveau du cerveau, qui est problématique. Donc, il faut aborder cette question-là pour permettre au cerveau, en fait, d'avoir une nouvelle source énergétique. Il faut essayer de réduire les processus inflammatoires le plus possible. Il faut améliorer le sommeil chez ces gens-là, réduire le stress, améliorer, en fait, l'ensemble des habitudes de vie pour leur donner une chance, finalement, de retrouver le maximum de capacité puis d'être capable de regagner en fait en qualité de vie le plus longtemps possible.
Oui.
C'est comme si, une image que je donne qui est intéressante, là, c'est un peu comme si on avait un bateau en fait affecté par la maladie d'Alzheimer, puis il y a une trentaine de trous dans la cale. C'est exactement ça. Dr. Bedeson a identifié une trentaine de facteurs qui vont causer la maladie. D'un point de vue médical, on a tout le temps essayé d'approcher la problématique avec le plus gros des trous qui est causé par deux types de protéines, qui sont les protéines bêta-amyloïdes et les protéines tau.
Oui.
En essayant de boucher ce trou-là en question, mais il en reste 29 qui fuient de peu partout. Fait que le bateau, il coule quand même.
Tu sais. Oui, oui.
Fait que dans le fond, d'un point de vue médical, on n'a jamais réussi à adresser la maladie parce qu'il y a trop de facteurs d'impliqués. Dr. Bedeson, il s'est dit, garde, on va prendre les 30, là, puis on va essayer de faire pour le mieux sur toutes les facettes.
Oui. Oui.
Ce faisant, il a été complètement estomaqué de voir qu'il était capable de retrouver les capacités des gens qui étaient déjà quand même assez avancés dans la maladie. Donc, pour répondre à votre mention tout à l'heure de dire qu'il faut le prendre assez tôt, c'est que chez les gens qu'on le prend assez tôt, on va peut-être être capable de ralentir tellement le processus qu'ils vont peut-être finir par mourir d'autre chose.
Ah, OK.
Tandis que chez les gens qu'on le prend plus tard, on va quand même améliorer certaines facettes au niveau de leur comportement, des habitudes de vie.
Leur niveau de vie, leur habitude de vie, oui.
Oui, c'est ça, pour leur permettre de leur redonner, soit d'un côté maintenir leur autonomie le plus longtemps possible, ou soit de leur redonner une certaine qualité de vie aussi qui va leur permettre d'apprécier encore la vie pendant encore quelques années. C'est ce qui, dans le fond, a la plus grande valeur. Hein. Actuellement, c'est ça, la vie, c'est notre raison d'être sur la Terre, c'est sûrement pas l'argent, c'est sûrement pas comme ça qu'on s'accomplit. Là. C'est réellement de vivre.
J'espère que ça tombe dans de bonnes oreilles pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a des gens qui mettent l'argent en première position, alors qu'il y a la qualité de vie pour moi en première position. Docteur Simard, on va faire une petite pause musicale et puis on vous revient.
Oui.
On ne choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile. On ne choisit jamais de vieillir. On voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir. On meurt souvent, bien entendu, car la vie est si fragile. Et si fragile. Et si fragile, est si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent son dû. La justice choisit où elle va et la vie. Seulement ce que l'on peut, on est rarement ce que l'on croit. Sitôt on se pense Dieu, sitôt on reçoit une croix, car la vie est si fragile. Mais si fragile. Mais si fragile, et si fragile, le temps est là, toujours là, seule justice ici-bas. On est si fragile. On marche sur l'or ou sur dépend de ce qu'on a reçu. On reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus? Car la vie. Car la vie.
Si fragile, la vie est si fragile. Alors, notre invité est toujours avec nous, docteur Éric Simard. Je vais demander au docteur Simard si le jeune Éric, à son jeune âge, quand il voyait les vieilles personnes, il était un peu troublé ou bien quoi. Pourquoi il s'est lancé? Parce qu'il est à l'origine de découvertes importantes pour ralentir le processus du vieillissement. Est-ce que le jeune, le petit Éric, avait peur de vieillir?
Votre question est fort intéressante, Jean. J'en comprends que ce qui vous intéresse beaucoup, c'est de savoir pourquoi.
Oui.
Pourquoi derrière la démarche.
Voilà, pourquoi est-ce que vous vous intéressez?
En fait, c'est que je suis biologiste de formation, je suis un docteur en biologie,
oui.
Génie génétique, mon doctorat.
Oui.
J'ai toujours été un passionné de la vie, autant au sens littéraire qu'au sens je dirais du vécu.
Oui.
La vie, d'un point de vue biologique, m'a toujours émerveillé, tout ce qu'on peut s'y attendre. Et puis, malheureusement, j'ai été beaucoup touché à l'âge de 15 ans. Mon père a fait un AVC.
Ah.
En fait, mon père a fait un AVC à l'âge que j'ai actuellement, en fait, à peu près, qui l'a laissé comme un enfant d'à peu près 5 ans. 18 ans de calvaire s'en est suivi, je vous dirais. Là.
Wow!
Et c'est évident pour moi que ça aurait pu être prévenu. Mon père n'avait pas des très bonnes habitudes de vie. C'était un fumeur. C'est évident que ça aurait pu être prévenu. C'est que j'ai grandi avec l'idée qu'on va éventuellement manquer de temps, que ce soit pour nous ou pour des gens proches de nous.
Oui.
Et que, bon, il faut, pour être en mesure de profiter de la vie, il faut en prendre soin. Et à un moment donné, en fait, étant donné mon intérêt pour la prévention, la santé humaine,
oui.
J'ai réalisé, en fait, entre 2000 et 2010, qu'on allait être en mesure d'agir sur le vieillissement humain,
oui.
De ralentir le processus, et ça va avoir un impact en santé humaine qui est vraiment phénoménal. On en parle très peu encore aujourd'hui.
Oui.
Y a juste les scientifiques du domaine, dans le fond, qui abordent la question. Mais pour vous donner un ordre d'idée, là, en 2015, il s'est passé deux choses intéressantes. En janvier 2015, il y a un article scientifique qui a été publié qui disait haut et fort « Agir sur le vieillissement humain, sommes-nous prêts?
Okay. »
La raison pour laquelle ils ont fait ça, en fait, c'était pour arrêter la tergiversation sur le fait qu'on est capable ou non d'agir. Là. Et c'est un espèce de consortium, une trentaine de scientifiques qui ont publié un article pour dire « Regardez, c'est clair, on est capable d'agir sur le vieillissement humain. » On va faire des très grandes découvertes au cours des prochaines années. Bon, blabla. La même année, en fait, en décembre, il y a un scientifique américain du domaine, un très grand chercheur, Dr. Matt Kaeberlein,
oui.
qui a publié un article qui s'appelle « The Ultimate Preventative Medicine ». L'ultime médecine préventive. Qu'est-ce que c'est que l'ultime médecine préventive? Mais en fait, c'est de ralentir la poussée de l'organisme à vieillir. Il a lui-même publié, en fait, avec l'Université Oxford, en 2019, une évaluation, une estimation, en fait, hein, que le fait de ralentir le processus du vieillissement va avoir un impact plus important en santé humaine que si on était capable aujourd'hui de traiter tous les cas de cancer et de maladies cardiovasculaires.
Mais on n'est pas encore arrivé là.
Non, on n'est pas encore arrivé là.
Oui.
Mais c'est juste que, imaginez-vous, en fait, la comparaison. Là. C'est qu'on est en train de vous dire, dans le fond, qu'en longévité humaine, on sera capable d'avoir un impact plus important que de traiter tous les cas de cancer et tous les cas de maladies cardiovasculaires. Et ça, c'est de ralentir la poussée de l'organisme à vieillir. Et en fait, c'est que, donc, pour nous ramener, en fait, au fait que j'ai fini par faire des recherches dans le domaine,
oui.
C'est que quand j'ai commencé à voir, en fait, ce qui se pointait à l'horizon en 2010, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour découvrir de nouvelles molécules qui vont agir sur les processus du vieillissement primaire, donc la poussée de l'organisme à vieillir, ce qu'on appelle maintenant des agents gérosuppresseurs, des suppresseurs du vieillissement. Et j'ai eu une idée en 2013, en fait, d'une façon de découvrir des molécules, en fait, une hypothèse qu'on serait capable d'en découvrir de ces molécules-là dans certains extraits végétaux.
Oui.
Pour une raison que je n'ai pas expliquée à personne, vous comprendrez, en fait. Et j'ai approché des chercheurs universitaires, des investisseurs, j'ai démarré une nouvelle entreprise et on a lancé en fait un programme de recherche très ambitieux dans l'idée de découvrir des nouveaux agents gérosuppresseurs, puis on en a découvert en fait 21 déjà.
Wow.
Donc j'avais raison, puis en fait, c'est des modèles qui utilisent la longévité cellulaire actuellement.
Non, on peut dire que votre entêtement aboutit à quelque chose.
Oui, tout à fait. Puis, on a même des résultats. En fait, un modèle qu'on utilise, on a les meilleurs résultats jamais vus à l'échelle internationale. Puis
bravo.
Ils sont même là, de 400 à 500 supérieurs à tout ce qui a été démontré jusqu'à maintenant.
Oui, voilà. Wow, grâce
à vous. Donc, c'est génial. Ça fait déjà 8 ans maintenant, en fait, que le programme de recherche est en cours.
Oui, oui. Est-ce qu'il arrive des moments où vos collègues vous disent. Ceux qui vous connaissent bien, avec qui vous êtes en amitié, Eric, arrête de nous emmerder avec tes histoires de ralentir le vieillissement. Là.
non, en fait, ça passionne tout le monde, parce qu'il faut comprendre une chose, hein, c'est que à l'époque, je me suis dit aussi que on sait exactement comment les gens des populations centenaires vivent, puis les raisons
oui.
pour lesquelles ils vivent si bien, si longtemps, on
oui.
les connaît très bien.
Mmh, mmh.
Fait qu'aujourd'hui, on serait capable d'enseigner à la population comment faire pour vivre comme les gens des populations centenaires. Puis juste pour vous donner une idée, c'est intéressant de prendre un exemple. À Okinawa, là, on voit des messieurs de 90 ans, 90, 95 ans, qui font encore du vélo et qui sont encore actifs sexuellement.
90 ans.
Oui, c'est épatant, non?
Oui, très épatant, ouais. Je dirais même.
C'est épatant. Fait que, en fait, on sait dernièrement, parce que quand j'ai publié mon premier livre en 2016, j'avais évalué moi-même que on pourrait probablement gagner 20 ans en qualité de vie.
Oui, d'ailleurs, ce livre, je prends la balle au bon, Vivre jeune plus longtemps, d'ailleurs, il va falloir que je vous réinvite, qu'on va parler spécialement de ce livre-là la prochaine fois. Parce que je le trouve très intéressant d'ailleurs. C'est bon. Et est-ce que, docteur Simon, quels sont les principaux médicaments à éviter?
Dans le cas d'Alzheimer, en fait, pour prévenir l'Alzheimer, il y a deux grands groupes en tant que tel. Il y a tout ce qui est benzodiazépine, ce qui est souvent utilisé comme somnifère ou encore comme anxiolytique. Et d'un autre côté, tous les médicaments qui font partie de la grande classe, en fait, des anticholinergiques sévères. Là, j'allais dire qu'est-ce que ça mange en hiver. Hein? C'est que les anticholinergiques sévères, c'est une classe de médicaments qui regroupe beaucoup de différents types, dont entre autres des antihistaminiques qui sont en vente libre en pharmacie.
Oui.
La meilleure façon de savoir si on est à risque au niveau des médicaments qu'on prend qui peuvent augmenter les risques d'Alzheimer, c'est d'en parler avec le pharmacien et lui demander si parmi vos médicaments, il y a des médicaments qui sont parmi ces deux classes-là. Donc, soit les benzodiazépines, qui sont une grande famille de médicaments,
oui.
Ou encore les anticholinergiques sévères, dans lesquels, entre autres, il y a même des médicaments en vente libre là, qui sont déconseillés, en fait, parce que on dit que 10%, il y a une étude européenne qui a montré, en fait, là, qu'il y aurait 10% environ des cas d'Alzheimer qui seraient reliés à l'usage de ces médicaments-là.
Oui.
Donc, c'est quand même important.
Oui, OK. Parlant de votre livre, la réédition du best-seller, ça s'est fait déjà en janvier 2000. Vive jeune plus longtemps. Ça, c'est le titre, quand j'ai lu ça, j'ai dit « Vive jeune plus longtemps ». Ou bien vive plus longtemps jeune. Bon, de toute façon, dans ce cas, c'était pas le biologiste qui parlait, mais c'est l'écrivain. Il peut jouer avec les mots comme il veut.
En fait, c'est même pas ni le biologiste ni l'écrivain. C'est Madame Wattier. La préface a été écrite par Lise Wattier que tout le monde connaît, en fait.
Oui.
Et c'est elle, le titre du livre à l'origine, c'était pas ça en fait. Et c'est elle qui m'a dit, le titre du livre portait le terme vieillissement ou vieillir.
Oui.
Puis Mme Wattier me dit, Eric, vieillir, c'est pas beau, c'est pas un beau terme. Les gens, ils veulent pas vieillir, ils veulent vivre jeune plus longtemps.
C'est vrai, c'est vrai.
Puis là, j'ai dit, Mme Wattier, c'est peut-être encore le temps. C'est que j'ai approché mon éditeur, on était comme à deux jours de l'impression, là, puis il a accepté de changer le titre.
Alors, c'est beau, non? Vive jeune plus longtemps. Vive jeune. Je vais dire que je vais vous réinviter. On va parler spécial parce que c'est un best-seller, ce livre-là. Si vous l'avez réédité, l'éditeur a réédité, c'est que vraiment, c'est
oui.
Avec une belle photo là-dessus, d'ailleurs. Et c'est vraiment. C'est... Alors, un dernier mot sur la conférence, comment dirais-je, la conférence virtuelle qui aura lieu le 22, là, de 10h à 11h. Un dernier mot.
Oui, ben la conférence de samedi, en fait, pour les gens qui voudraient s'inscrire en passant, mon site internet, simard.com,
oui.
simard.com,
oui.
C'est gratuit, c'est ouvert à tous, c'est par Zoom. C'est une conférence durant laquelle je vais expliquer tous les facteurs de risque pour l'Alzheimer, mais surtout aussi tous les facteurs de prévention, en fait, comment on peut mettre toutes les chances de notre côté pour éviter la maladie, pour prévenir, réduire les risques au maximum.
Oui.
Et je vais même parler, en fait, de la question de l'incidence génétique. C'est vraiment une conférence qui est très, très complète, en fait, sur le sujet de l'Alzheimer. Je vais présenter beaucoup aussi d'études très récentes, même des résultats qui viennent juste d'être publiés là, en janvier de cette année.
Oui.
Donc c'est par Zoom samedi de 10h à 11h. En fait, c'est dans le cadre du Salon des aînés de Laval, qui normalement a lieu en octobre dans l'année.
Oui.
Mais là, ils l'ont fait en virtuel cette année, puis ils l'ont comme étendu sur une période de 3 mois. Donc, j'ai accepté de le faire aussi. Et ça va être vraiment un très, très beau rendez-vous, en fait, samedi.
Merci beaucoup, docteur Éric Simard. Bon mois de la sensibilisation à l'Alzheimer. Et si l'on parlait de renverser l'Alzheimer, et à son livre qui a été réédité, Vive jeune plus longtemps, c'est un best-seller d'ailleurs. Et comme je lui ai promis, ça je vais tenir parole, je vais le réinviter spécialement pour le livre. On va parler de ce livre-là.
Oui, merci beaucoup, c'est gentil.
C'est moi qui vous remercie. Allez, bon mois de la sensibilisation et au plaisir de vous réentendre.
Oui, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir. Voilà. Merci à toi, Eric. Et j'ai dit merci au docteur Éric Simard qui est venu nous parler du mois de la sensibilisation à l'Alzheimer. Et si l'on parlait de renverser l'Alzheimer, merci à vous, chers auditeurs et auditrices. Et puis, bon, ben, On se retrouve demain, Nicolas, à la même heure sur les ondes de Canal M. Alors, faites escale chez nous tous les jours, en semaine, du lundi au vendredi, de 17h à 18h. Et je vous dis ciao.